Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et pour m'accompagner cette semaine, quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'aller en Californie, Dieu sait seul pourquoi, mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut mon cher.
Encore de retour de Californie.
Oui, puis encore en maudit parce que mon système informatique a décidé ce matin qu'il buguait, fait que vous m'entendrez à travers un micro qui est de moins bonne qualité, mais que veux-tu? Ça arrive.
C'est des choses qui arrivent. Parfois, il faut se rabattre sur un plan B si on veut avoir une émission parce que ça. Parfois, la technologie ne veut pas coopérer. Ça arrive de temps en temps, mais bon, on essaie tant bien que mal de survivre quand même. Donc, c'est vraiment des problèmes qui sont pas super importants, là, mais bon. Donc, Marc, on a une autre belle petite émission cette semaine. Tu vas nous parler de ton voyage en Californie encore. Pour aller essayer quelque chose de différent, par exemple, la semaine passée, tu avais été essayer les Mazda 3 à traction intégrale. Mais cette semaine, tu es allé essayer quelque chose d'un petit peu plus agressif, pourrais-je dire, ou un petit peu plus capable en route. Tu es allé essayer le tout nouveau Jeep Gladiator, un produit que les fans de Jeep attendent depuis, ma foi, un certain temps.
Et puis, écoute.
Ouais, et puis, on va faire nos essais aussi. Tu vas nous parler du Lexus RXL et du... moi, je vais vous parler du Hyundai Kona électrique. Ça va être en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, vas-y, raconte-nous ça, cette belle petite histoire de la Jeep Gladiator.
Écoute, j'ai tellement trippé, là. J'ai tellement, mais tellement trippé, là.
Moi, j'ai vu quelques photos, puis ça me semble que j'aurais aimé ça être là. Ça aurait été le fun.
Ah, écoute, ça avait même pas de bon sens. C'est vraiment... Tu sais, j'ai pas travaillé, j'ai eu du fun. On va se dire les vraies affaires, là.
On peut se dire les vraies affaires souvent dans des invitations comme ça, à des lancements, ou tu sais, tu es invité à un voyage de presse. Avec... Souvent, c'est le fun. Souvent, ils sont capables de rendre ça super intéressant. Ça arrive que c'est très, très monotone et très, très, tu sais, sur une ligne droite et plate, là. Mais souvent, il y a des choses alentour. Nissan faisait des beaux événements intéressants aussi, tu sais. Fait que c'est pas toujours du travail, faut se le dire, là.
Non, mais dans ce cas-là, je t'admets particulièrement que ça a été très agréable.
Le petit gars en toi est ressorti.
Écoute, mais je vais te raconter. On va d'abord parler du véhicule, OK, ouais, avant de parler de mes aventures. On pourrait croire, en fait, que le Gladiator, ce n'est qu'un Wrangler que l'on a étiré un peu. Hein? Quand on regarde le look, ça ressemble à ça. Et ouais, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que la partie avant, donc à partir du pilier B vers l'avant, c'est un Wrangler. Mm-hmm. Donc, on l'a repris à peu près tel quel. On a fait quand même quelques modifications, notamment si tu es très observateur et que tu as un ruban à mesurer, tu vas te rendre compte que la fameuse grille à 7 fentes là, qui mm-hmm. caractérise Jeep, mm-hmm. bon, on a un peu élargi les fentes.
Okay.
Ce qu'on se dit, en fait, c'est que puisque on a besoin de travailler, c'est un pick-up, on a besoin de plus d'entrée d'air dans le véhicule. Et en conséquence, on a un peu élargi les fentes en se disant, ben c'est peut-être la meilleure méthode. Ça permet de faciliter ce qu'on veut faire avec.
Okay.
Ça, c'est le premier volet.
C'est bon.
Une fois ça dit, on se retrouve donc avec un véhicule dont la partie avant est celle d'un Wrangler, monté sur des 33 pouces de base, 35 pouces en option sur le Rubicon. C'est des monstres, inutile de te le dire.
Mm-hmm.
Et mais t'as vraiment le même look que le Wrangler. Et, au bonheur, t'as les mêmes capacités que le Wrangler, c'est-à-dire que t'es capable d'enlever les portes, t'es capable d'enlever le toit, puis t'es capable de baisser le pare-brise exactement comme tu peux le faire sur le nouveau Wrangler.
OK.
Fait que c'est le premier camion pick-up décapotable,
ouais.
Littéralement.
Ouais, OK, ça, ouais,
c'est
un fait.
Alors ça, c'est la partie intéressante. Deuxième partie intéressante, c'est que, bon, à partir du pilier B vers l'arrière, on a vraiment créé un camion pick-up.
Okay.
Camion pick-up qui a été fait notamment on a un peu modifié la partie arrière, on a rendu ça un peu plus solide, bien entendu, et on a installé des suspensions qui sont inspirées de celles du Ram 1500,
ouais,
pour ne pas dire littéralement copiées.
Ouais, ouais.
Ben,
un camion, c'est un camion, pourquoi réinventer la roue quand ça fonctionne?
Exactement. Puis, tu sais, on n'a pas repris, on aurait pu facilement prendre les suspensions du Wrangler, mais on a décidé de vraiment aller avec quelque chose de différent. Ce que ça permet de faire, mm-hmm. ben, écoute, ça permet de remorquer 5650 livres.
Quand même pas si mal.
Ça permet de prendre en charge dans la boîte 1650 livres.
Okay.
Le seul bémol, c'est que c'est une boîte de 5 pieds.
Ouais, c'est court, hein?
Ouais, c'est pas très long. Mais ça fait un véhicule qui est très long, hein? On parle de 218 pouces de longueur, là.
Oui, ça a l'air assez long. Je regarde des photos pendant que tu parles, là. C'est des gens qui ont été au même événement que toi, en passant. Mais oui, puis c'est un.
Tu as le droit de regarder les miennes, je te dis ça.
Ça a l'air d'un monstre. Ah, ben, j'ai juste tapé dans Google Jeep Gladiator pour avoir le premier. Puis j'ai pris le premier site que j'ai vu. Fait que... si ça avait été toi, ça aurait été ton site.
C'est parce que je ne l'ai pas fait encore.
Ah, tu sais, ben, j'aurais pas trouvé grand-chose d'abord. Mais je l'ai vu un peu, j'ai vu un peu de tes photos sur Facebook. Donc...
Mais c'est ça. Alors, ça, tout ça pour dire donc que tu as un véhicule qui est de bonne capacité, qui est capable de faire des belles choses, mais qui n'est pas exactement discret et délicat. Hein, okay. C'est les vraies affaires. Bon, une fois assis à l'intérieur, on a roulé, on a fait de l'autoroute, on a fait de la route ordinaire. C'est un véhicule qui se comporte bien, qui est un peu gros, évidemment, qui est un peu lourd, on s'y attend. Qui est un véhicule, donc, qui sautille un peu, comme une camionnette pick-up. On le sent d'une certaine lourdeur. Okay. C'est clairement, là, c'est pas discret et délicat. Okay. Cependant, c'est pas inconfortable loin de là, et ça permet donc de se promener aisément là à peu près partout où on veut aller. Ceci étant dit, la partie intéressante est vraiment survenue quand on est allé faire du hors-route. Et là, on parle du hors-route solide.
Oui.
Parce qu'ils ont vraiment confiance en leur véhicule. Et là, on parle vraiment là, parce que faut dire que le Gladiator, même s'il est long, il a les mêmes capacités trail rated que tous les Jeeps.
Ouais.
Et pour être trail rated, ce que ça prend en fait, c'est simple, c'est qu'ils ont 5 critères là. Le rock crawling, comment bon. Il y a toutes sortes de critères là en route pour être capable de le faire. Et quand ils le font, ben là, ils reçoivent l'étiquette trail rated, ce qui permet donc d'aller à peu près n'importe où.
Okay.
Donc nous, on l'a essayé et on a fait du hors route avec la version Rubicon parce que ça, c'est l'autre élément. Toutes les versions sont disponibles. Ça commence avec la version Sport S, qui est la version, si tu veux, de base. Mm-hmm. Et ça va jusqu'au Rubicon. Pas parler de la motorisation parce que ça me semblait une évidence. Là, c'est le même V6 3.6 qu'on retrouve dans le Wrangler.
On n'a pas de 4 cylindres turbo?
Non, pas de 4 cylindres turbo. On dit qu'il pourrait manquer de puissance, évidemment, pour ce genre de...
Pour tirer, peut-être. Les gens s'attendent à ce que ça soit capable de remorquer des choses comme avec un 4 cylindres turbo. Ça serait un peu juste. C'est plus... Ça devient plus un jouet pour te promener sur l'autoroute puis ces petites routes que d'aller faire du hors-route. Dans ce cas-là.
Exactement. Alors là, donc, on met sur le V6 3.6 Pentastar qu'on connaît.
C'est bon.
Boîte manuelle 6 vitesses, boîte automatique 8 vitesses. Avec les deux, comme dans le Wrangler, là, les deux types de rouages intégraux, incluant le fameux Command Track, puis bon, la version qui va avec le Rubicon qui te permet d'aller partout. Boîtier de transfert que tu peux changer à la volée, là, dans certains cas. Donc, ça va bien. C'est là-dessus, tu sais, on n'est pas dans les grandes nouveautés, là. On a repris exactement ce que le Wrangler est capable de faire.
Okay.
Ceci étant dit, c'est 200, quand même 285 chevaux. Ça se déménage abondamment. Et il y aura une version 3 litres diesel qui va arriver l'année prochaine.
Ouais, ce qui va rendre les choses intéressantes pour ceux qui veulent tirer quelque chose.
Exactement. Alors, pour le moment, ça, c'est l'info technique.
C'est bon.
Et là, on est allé s'amuser. Et là, on est arrivé, puis on roulait sur autoroute. On est en bordure, en banlieue de Sacramento, en Californie. Et là, ils nous amènent à un endroit. Ils disent « Tournez ici ». Et là, tu sors. Et là, bon, on s'est retrouvé dans un sentier rocheux, de la boîte un petit peu. Mais tu sais, rough là, mais pas... rough un peu.
Rough, mais pas super désagréable.
Non, non, tu sais, puis on disait c'est rough un peu, mais bon, c'est correct. T'sais, ça nous permet de voir ce que le Jeep fait en route. Alors, on arrive au bout de ça, et là, il y a une tente. Et on nous dit « Bon, êtes-vous prêts pour aller faire du hors-route? » C'est parce que c'est pas ça qu'on vient de faire. Non. Ça, c'était la route pour vous mener ici, là.
Ça c'est la route un peu raboteuse qui t'amène aux routes ultra raboteuses.
Oui. qui ont créé pour nous, là. Ben, pas juste pour nous, parce que c'était un lancement international, là. Il y avait des gens d'un peu partout dans le monde qui étaient là à tour de rôle, mais, fait qu'ils ont dit non. Alors, là, ils nous ont emmenés dans un sentier hors route, et je t'avoue que c'est l'un des sentiers hors route les plus exigeants que j'ai vu dans un événement Jeep.
Okay.
J'en avais fait d'autres avec le Wrangler qui était de l'escalade rocheuse. Là, c'était vraiment assez rock'n'roll. Mais dans ce cas-là, il y avait un peu d'escalade rocheuse, il y avait de tous les angles et il y avait de la bouette.
Ouais, okay.
Et je dis volontairement de la bouette, là, pas de la boue.
De la boue, c'est quand ça recouvre un peu. Là.
C'est ça.
De la bouette, c'est quand c'est profond et glaiseux et c'est dégueulasse. Ça.
C'est qu'en fait, il faut dire en plus que nous, on est arrivé une journée de pluie.
OK, ouais, tout était là pour vous autres.
Écoute, ça n'a aucun sens, la bouette. D'ailleurs, bon, j'ai envoyé une photo, là, vous remarquerez qu'il y a quelques dégâts sur la voiture.
Ouais.
Elle est très sale. Écoute, il y a un endroit là où on rentrait tellement profond qu'on n'aurait, je pense, pas été capable d'ouvrir les portières.
OK, ouais, c'est ça, il y a une place. La photo que tu m'as envoyée, il y a de la boue sur la porte, là. Puis tu
Oui,
vois que c'est pas comme un splash qu'il y a eu, ça vraiment, parce que la boue a frotté là.
absolument. Là. Écoute, c'était vraiment hallucinant. Et bon, mon collègue Jacques Déhaye, avec qui je voulais, va mettre en ligne au cours de la journée, probablement, peut-être demain, une petite vidéo où on a l'air de deux épais, parce que vraiment, on nous amène, et la première étape, il faut vraiment mettre le Jeep littéralement sur deux roues, presque, parce que c'est vraiment canté pas mal.
OK.
C'est la position que je déteste le plus au monde
Ouais,
quand je fais
c'est inconfortable, hein?
vraiment. De face, en montée, c'est pas si mal, mais vraiment, de côté, c'est inconfortable. Écoute, on a l'air de deux imbéciles. Et là, après ça, on descend une pente avec des gros rochers, mais vraiment d'énormes rochers. Ça brasse tellement que Jacques Déhaye, qui est en train de faire une vidéo, en échappe son téléphone. En tout cas, écoute, je te dis, ça a brassé beaucoup. Et jamais, 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 le véhicule n'a hésité. Jamais.
C'est fait pour ça, là.
Je veux dire, j'avais atteint bien mes limites bien, bien avant d'atteindre celle du véhicule.
Ah oui, ben, tu sais, c'est des véhicules, c'est exagéré, là, mais c'est des véhicules qui sont capables de grimper aux arbres. Je veux dire, c'est fait pour aller faire du hors-route. Ça a été testé avant par des gens qui sont encore beaucoup plus habitués qu'un journaliste peut l'être ou que c'est quelqu'un qui fait ça de manière, par hobby peut l'être, là. Fait qu'on s'entend que c'est des véhicules qui sont capables.
Oui, puis dans ce cas-ci, tu sais, nous, c'était une équipe justement de professionnels du hors-route, si tu veux, qui avaient monté le setup. Écoute, c'était vraiment très impressionnant. Et c'est sûr que l'angle d'attaque, puis l'angle de dégagement est un peu moins élevé que dans un Wrangler ordinaire à cause du long empattement. Tu
Ouais.
sais, tu es plus limité dans tes mouvements à cause du long empattement, qui est vraiment pas mal plus long, là. Mais pour le reste, il y a les mêmes capacités de suspension. Tu peux déconnecter tes sway bars. Tu peux, tu sais, et ce qu'on a fait, c'est bon, les essieux sont un peu plus gros, plus rigides, un peu plus gros que sur un Wrangler parce qu'on sait qu'on doit supporter un certain poids. Donc, honnêtement, oui, c'est un véhicule qui est fait fort. C'est un véhicule qui se comporte comme un camion, mais c'est un hybride parfait entre un pick-up et un Jeep. Et on n'a pas limité, je dirais, les capacités de l'un ou de l'autre.
C'est
On a
ça.
été capable de garder les deux, là.
Le fait de faire un camion avec, de faire un pick-up avec, n'a pas enlevé ses capacités qu'on s'attend à avoir d'un Jeep, là.
Non, et parce que c'est un Jeep, ça n'empêche pas les capacités de remorquage et de transport. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes.
Ouais.
Le meilleur des deux mondes aussi au niveau du prix.
Ouais, j'imagine. J'imagine que ça doit pas être donné.
Mais en fait, c'est pas si mal.
OK.
Ben, c'est pas si mal, c'est relatif, là. Mais c'est 2500 pièces de plus qu'un Wrangler ordinaire.
OK.
Donc, si ton Wrangler ordinaire de base est à, je sais pas, moi, 42 000, ben celui-là, t'as 45 000 le premier. Puis le Rubicon est à 52 000 dans le cas du Gladiator.
On s'entend que pour un pick-up, c'est dans les prix, là. Normalement, les gens qui s'achètent des pick-ups sont prêts à payer des montants assez faramineux. Des fois, on le voit avec les versions plus élevées, là, tu sais, Titanium chez Ford ou, tu sais, je veux dire,
Ça vaut jusqu'à 100 000 piastres, là,
c'est
c'est quand même.
ça, là. Donc, c'est pas exagéré, là.
Non, effectivement. Donc, c'est un véhicule. Honnêtement, là, si j'avais un pick-up à m'acheter, c'est un véhicule que je considérerais. Évidemment, comme je te dis, c'est pas peut-être pas pour du gros travail. T'sais, si j'étais entrepreneur, puis j'avais un chantier, pas sûr, à cause de la boîte de 5 pieds qui est un peu limite.
Ouais.
Ça, c'est la partie qui est un peu plus désagréable. Mais pour le reste, c'est vraiment un véhicule. Et je te dis, on a eu un plaisir fou. On a roulé dans la boîte. On est parti de là. Écoute, sur le Rubicon, les marchepieds sont résistants. Je ne dis pas des marchepieds, mais les espèces de barres de protection de chaque côté. Je peux te confirmer qu'elles sont résistantes parce qu'on les a accrochées solides. On a roulé sur des rochers. À ma connaissance, il y a eu un seul problème de toute la journée.
OK.
C'est un journaliste qui a roulé sur une roche pointue puis qui a fait une crevaison.
C'est ce qui est
C'est
quand même pas si grave au bout de la ligne.
Non, puis qui change rien, peu importe le type de véhicule que tu aurais, tu sais, c'est une roche pointue, c'est une roche pointue, puis
Ouais,
si tu vas péter ton pneu
si
pareil,
tu
tu sais.
poignardes ton pneu, ben là, tu
C'est ça, exactement.
sais. Pas grand-chose que tu peux faire. Ouais.
Fait que honnêtement, c'est vraiment particulier. C'est un véhicule, écoute, je te dis, là, moi, j'ai trippé comme un enfant. Là. Je suis sorti de là, là, puis je dis à ma femme, je suis redevenu un petit gars. Là, tu sais, là, j'avais l'impression de jouer avec mes Hot Wheels dans un carré de sable. Et honnêtement, le véhicule a une capacité qui est vraiment impressionnante. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Évidemment, il y a les défauts du Jeep, là. Des fois, c'est bruyant, des fois, ça sautille. C'est pas nécessairement. C'est plus raffiné que ça l'était, mais ça demeure un Jeep pareil, là.
Non, ouais.
Mais c'est, écoute, j'adore ça. Sérieusement, là, Moi, j'adorais ça. J'ai juste hâte qu'il arrive sa flotte de presse pour pouvoir le réessayer. Là.
Ouais, sauf que ça va être un peu plus doux, ton affaire. Là. Je pense pas que tu vas aller autant dans la boue et dans les sentiers hors route que tu l'as fait avec eux. Là.
Je ferais jamais ce qu'on a fait là tout seul. Jamais.
Non, c'est pas sécuritaire. Là. Ça te prend quelqu'un pour spotter les roches et te dire, OK, t'sais, tranquillement, puis tourne. Puis ça... Non, ça se fait pas seul. Là.
Non, effectivement. Bon. Alors, bon, voilà mon amusement de la semaine.
Très heureux que tu aies eu du plaisir. Donc, là-dessus, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Je vais essayer de ne pas m'enfarger cette fois-là. Là, tu vas nous parler du Lexus RX-L.
Oui, RX, parce que le RX, on le connaît, c'est le premier ou un des premiers vrais multisegments. Parce que c'est le mélange parfait entre une voiture et un utilitaire sport. Hein? Mm-hmm, ouais. On sait ce que c'est. Et le L, ben, c'est tout simplement pour long wheelbase, parce que c'est la version allongée. Donc, la version 7 passagers, celle que j'ai essayée.
OK, c'est bon.
Quand on passe du Lexus RX au Jeep Gladiator, on est dans deux mondes.
J'imagine.
Écoute.
Côté confort et côté capacité.
Écoute, ça n'a même pas de bon sens. C'est un véhicule qui est d'une douceur absolument incroyable. C'est un véhicule, bon, qu'on aime ou on n'aime pas, là, je veux dire, tu as le droit de pas aimer le look avec l'espèce de calandre en sablier là, qui est désormais la signature de Lexus. Moi, je le trouve beau. Je trouve qu'ils l'ont amélioré au fil des ans, vraiment.
Ouais.
Il a l'air un peu plus raffiné, un peu plus dynamique, un peu plus sportif. Les premiers, là, étaient un peu rondouillets, puis il avait l'air un peu moins musclé, pourrait-on dire. Là, on parle vraiment d'un moteur V6 3.5 qu'on connaît bien. 295 chevaux, 268 livres-pieds de couple, une boîte automatique 8 rapports, traction intégrale. Mais tout ça, c'est d'une douceur, c'est d'une... Tu sais, on n'a pas l'impression d'être dans un camion. Pas du tout.
Okay.
Ça se conduit comme une voiture. C'est agréable, c'est le fun, c'est gros. C'est sûr que les dimensions font, surtout dans la version L, là, où il y a quand même trois rangées, puis il est plus long, l'empattement est plus long que sur la version ordinaire, mais dans l'ensemble, tu le ressens pas vraiment. Comme je te dis, c'est pas une conduite dynamique, pas du tout.
Okay.
C'est juste une conduite là, très, 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 très smooth, hyper confortable. T'embarques là-dedans, tu te ranges quelques gaspés, puis tu reviens. Puis tu fais « Ah, tiens, c'est déjà fini. » Tu sais, là, c'est pas, il y a pas de... Il y a vraiment rien de rien d'inconfortable là-dedans.
Okay.
On a étiré le RX original d'à peu près 112 mm là, pour être capable de faire ça. Donc, il fait à peu près 5 mètres d'un bout à l'autre, un peu moins, en fait.
Okay.
C'est plus petit un petit peu qu'un Mazda CX-9, mais pas bien, bien. C'est... Bon, il est disponible en version hybride. Moi, j'avais la version en pétrole avec le V6. C'est... comment je pourrais dire? Tu sais, quand tu n'as pas grand-chose à dire sur un véhicule, là. Tu sais, quand tu roules dedans, tu fais... Ça fait très, très bien le travail pour lequel c'est fait.
Ouais.
C'est confortable. La qualité de finition est là. Le défaut, il y en a quelques-uns quand même, là. Entre autres... l'espace de chargement qui est assez limité. Hein. Si tu utilises les trois rangées, traîne pas trop de valises.
Non, j'imagine.
Parce que vraiment, tu vas vraiment trouver là, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Écoute, je suis allé faire l'épicerie, puis j'ai été obligé d'abaisser la troisième banquette.
OK.
Parce que j'avais une caisse d'eau, parce que j'avais ci, j'avais ça. Donc, j'ai été obligé d'abaisser la troisième banquette, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Non.
L'autre élément que j'ai pas aimé puis que j'aime toujours pas, c'est l'espèce de système d'infodivertissement de Lexus avec l'espèce de souris dans le milieu.
OK, ouais.
Et là, on parle vraiment d'une souris, là.
Ben ouais,
c'est vraiment un petit levier avec un gros manche carré que tu déplaces comme une souris. Je trouve ça détestable au possible. Je trouve ça... pas du tout ergonomique, pas du tout pratique, ça va pas bien, t'es toujours enfargé là-dedans. Je suis jamais capable d'aller chercher la bonne commande. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas trippé. Je trouve ça très, très ordinaire comme système, comme façon de gérer tout ça.
Ouais.
En revanche, ben écoute, je suis obligé de te dire quand même que ça fonctionne. Là, t'sais. Mais bon, l'affichage est correct, mais encore une fois, c'est compliqué. T'sais, il me semble que tu te cherches tout le temps. Alors que ce genre de système-là, tu devrais même pas te poser de questions. C'est bing-bang, rentre dedans, puis ça finit là. Mais c'est pas là qu'on est, pas du tout. Je trouve que vraiment, ça, c'est un peu désagréable. Pour le reste, écoute, système de son impeccable, les sièges hyper confortables, facile à régler, position de conduite sans reproche, habitacle bien insonorisé, c'est pas dynamique, monsieur, quand ça traîne quand même pas dans la rue, suspension extrêmement douce, donc qui absorbe littéralement. Donc, c'est vraiment un bel exemple de véhicule confortable, de luxe, bien pensé, qui va te durer pendant des années parce qu'il est extrêmement fiable. C'est vraiment le véhicule avec lequel j'ai peu de reproches à faire, sauf peut-être que des fois, on aime ça avoir un petit frisson quand on conduit. Puis définitivement, on l'a pas quand on conduit le RX. Ouais. Mais pour le reste, c'est un véhicule avec lequel j'ai aucune espèce de difficulté.
Non, c'est ça. J'ai de la misère encore avec, tu sais, on parlait de Volvo la semaine passée, j'ai de la misère avec les... Comment qu'un constructeur peut dire qu'un système est assez fonctionnel pour le, tu sais, pour le, comme le lancer puis le donner ça au public, là. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a des gens qui essayent ça. Il doit y avoir des, tu sais, des focus groups qui font essayer certains systèmes pour voir si les gens aiment ça ou aiment pas ça. Je peux pas concevoir que ça passe à travers les mailles. Ce genre de système-là qui est pas intuitif, qui est pas, tu sais, c'est pas agréable à utiliser, hein. Je comprends pas.
Ouais, mais faut se rappeler que c'est un vieux système, hein.
Ouais, ouais.
Dans le cas du Lexus, là, c'est un système qui date déjà de plusieurs années. Donc, c'est quand même un système qui était super révolutionnaire quand il a été lancé. Il est un peu moins maintenant.
Ouais, c'est ça.
Mais, ça a passé exactement. Alors, comme je te dis, c'est le plus gros défaut. Ça, puis le manque de plaisir de conduire. C'est-à-dire que c'est pas désagréable, mais t'as juste pas de sensation. Tu sais,
ouais.
C'est comme de prendre un café tiède, là. C'est pas mauvais, là. C'est juste comme il manque quelque chose. T'sais.
Ouais, mais des fois, c'est le pire. Des fois, c'est la pire critique que tu peux donner à quelque chose, c'est de te faire ressentir rien du tout. Tu sais, ça te fait se ressentir du plaisir, c'est quelque chose que ça te fait se ressentir du désagrément, c'est quelque chose, mais être neutre sur quelque chose, des fois, c'est comme pire. Parce que ça veut dire que ça dégage aucun sentiment en toi.
Effectivement.
Mais bon.
Je te dis, c'est vraiment un véhicule. C'est, quand tu l'as, tu n'as aucun reproche à lui faire. Tu sais, tu le fais, tu t'en sers, ça va bien.
Ça fait le travail, là. Mais...
Ça fait le travail, puis c'est confortable, puis c'est luxueux. Puis je comprends pourquoi c'est le véhicule le plus vendu chez Lexus. Okay. Je le comprends.
Ouais.
Il le mérite. Mais c'est sûr que si tu es quelqu'un qui aime conduire puis qui aime la sensation de conduite, je peux te dire que c'est pas avec ça que tu vas l'avoir.
OK. Non. OK. Je comprends. C'est bon.
Puis toi, t'es allé dans les plus petits formats, ben non.
Plus petits formats et qui consomment moins d'essence que toi parce que ça consommait zéro essence. C'était le Kona électrique, donc le Kona EV de chez Hyundai. Je vais commencer tout de suite par les trois points qui m'agacent, puis après ça, je vais y aller avec le reste parce que je veux dire, c'est un véhicule qui est, tu l'as dit, Marc, t'en as fait l'essai, c'est un véhicule qui est assez extraordinaire. Mais il y a des petites choses qui m'agacent avec la voiture. La première chose, puis ça, c'est bon pour tous les constructeurs qui font des véhicules électriques présentement. J'ai pas rencontré un que le système de porte pour accéder au port de recharge est pensé et conçu pour l'hiver. Et le Kona, c'est le pire de tout. C'est super bien placé parce que c'est sur le pare-choc avant, mais c'est super mal placé parce que c'est sur le pare-choc avant. Le problème qu'on a, c'est qu'aussitôt que ça glace, si ça verglace, si ça neige, si ça... Peu importe, il se met une couche de glace ou de neige par-dessus le pare-choc en avant, ben votre porte est gelée en place. Et puis, il n'y a pas de bouton pour relâcher la porte. Comme dans ma Leaf, moi présentement, j'ai une Leaf 2013. Si je veux débarrer ma porte de recharge, j'appuie sur un bouton. Il y a un mécanisme qui pousse et relâche la porte et la porte se rouvre. C'est sûr et certain, s'il y a de la glace, s'il y a de la neige, ça bloque le système, mais avec le Kona, on n'a pas un système de relâchement comme ça. C'est vraiment un système sous pression avec une barrure. Tu sais, quand on pousse puis ça déborde, là, tu pousses dessus puis ça déclic, puis là, tu peux l'ouvrir. Ben, si c'est pris dans la glace, oubliez ça, là. Ça pousse pas, puis ça clique pas, puis ça revient pas. Je suis revenu du travail avec l'auto un soir, puis j'ai voulu la charger, puis... En m'en venant, il y avait eu de la neige, il y avait eu de la glace, il tombait de la cochonnerie. Ben, j'ai eu toutes les misères du monde à ouvrir la porte de recharge. Parce que même si j'étais capable de la déclencher, j'étais pas capable de la tirer, elle était prise dans la neige. Puis un coup, je l'ai ouvert, puis j'ai branché l'auto. Le lendemain matin, j'étais plus capable de la fermer parce qu'il s'était rentré de la neige dans le mécanisme, dans l'espèce de charnière, la penture qui fait que la porte ferme et va se s'accrocher à sa place pour rester fermée. J'étais pas capable de l'envoyer assez loin pour qu'elle respire. Il a fallu que je passe avec mes doigts, j'enlève de la neige, que je souffle, que je fasse une petite prière. Je veux dire, ça voulait rien savoir. C'est vraiment une des choses qui m'agace un peu de cette voiture-là. Ça aurait été bien de mettre la... ça serait bien de penser au climat du Québec puis au climat hivernaux là, où il y a de la neige, de la glace, puis que ce système-là va rester pris en majoritairement du temps. C'est sûr et certain, si vous avez un garage ou un Tempo, vous n'avez pas de problème. Mais aussitôt que vous allez sortir avec la voiture, si vous allez chez quelqu'un pour aller souper puis hiver glace, ben bonne chance quand vous allez revenir à la maison, parce qu'il va falloir vous travailler avec ça pour ouvrir votre porte de recharge. À moins que vous ayez un garage, vous allez la laisser dégeler, vous allez aller charger plus tard, là. Mais ça reste que c'est pas super fonctionnel.
Écoute, j'ai probablement été chanceux, mais moi, j'ai pas rien senti de ça. J'ai pas eu ces problèmes-là du tout, du tout.
OK. Non, moi, ça a vraiment été, ça a vraiment été quelque chose, là. Une ou deux fois, j'ai eu à me battre un peu avec la porte, là. Après ça, ça a bien été. Quand il faisait beau, j'ai eu aucun problème. Mais, tu sais, j'en ai eu d'autres voitures électriques. C'est toujours pareil. Ma Leaf, là, la nouvelle Leaf...
Ah, c'est effrayant, ça. J'ai eu de la misère avec la Leaf.
La trappe est en avant, puis c'est plate. Mais s'il neige, ta trappe, elle se remplit de neige. Puis là, on s'attend à ce que tu achètes un bidule qui est vendu par une autre compagnie qui se vend 50$ pour mettre ça par-dessus pour que la neige rentre pas. Regarde, concevez la chose comme du monde en partant, puis on n'aura pas de problème. T'sais. Ça aurait coûté quoi, comme à Nissan, quand on est allé faire l'essai de la Leaf 2018-2019, pourquoi pas mettre une espèce de plastique sur le dessus de la trappe? T'sais, quand ta trappe, elle rouvre, là, ben, la partie du haut là, qui aurait comme une membrane qui empêche la neige de tomber directement dans la trappe du capot, ça aurait coûté quoi? Mais non, ils l'ont pas fait. Fait que tu déneiges ton auto. Moi, à chaque fois, je vais déneiger ma livre, faut que je fasse attention. Parce que juste à déneiger ton pare-choc, pas ton pare-choc, mais ton capot, mais si la neige se met à glisser, où est-ce que ça se ramasse? Dans ta trappe de recharge. Puis là, ben, c'est le trouble de la fermer, puis de... Fait que c'est vraiment pas pensé. Il y a pas une voiture à date que j'ai essayé qui est vraiment pensée pour le climat québécois, là, ou les climats hivernaux. Deuxième chose, j'ai juste un peu de misère, puis là, c'est des problèmes de gens riches et célèbres, là, même si je suis pas riche ni célèbre. Mais à 52 000$, qui est le prix de la version Ultimate que j'avais, j'ai de la misère à concevoir qu'on peut avoir des sièges chauffants ventilés en avant, un volant chauffant, puis qu'on n'a pas de siège chauffant en arrière. À 52 000$, je m'attendrais, quand on a ça dans une Elantra à 35 000$, des sièges chauffants arrière, je m'attendais à avoir des sièges chauffants en arrière.
Oui, effectivement, mais en même temps, tu sais, on le sait que les voitures électriques, ça coûte une fortune.
Ça coûte quoi un siège chauffant arrière? Bah, vraiment.
Ça doit coûter quelques centaines de piastres. Là, parce
sur, le volume, sur le volume, à un moment donné, je veux dire, je peux comprendre. Là. Mais tu sais, quand tu regardes la différence entre la version, ce qu'ils appellent la version Preferred, qui est la version de base, qui est 45 599, puis la version Ultimate, ben, c'est des sièges en suède en avant qui sont ventilés. Sinon, tu as juste les sièges chauffants. C'est des phares Odell, puis c'est un toit ouvrant, puis une chaîne audio Infinity un peu plus, qui est meilleure que la chaîne de base. Mais pour 52, pour la différence de prix, qui est 6 000$, me semble que je m'attendrais à avoir des sièges arrière chauffants. T'sais. Laisse les sièges avant ventilés au pire, puis mets des sièges arrière chauffants pour que l'hiver, tout le monde soit confortable. T'sais. Mais bon, c'est personnel, là. Mais je trouve qu'à 52 000$, qui est pas loin du prix de base de la Volvo que je conduisais la semaine passée, qui était, tu sais, que t'avais des sièges arrière chauffants dans la version de base, je m'attendais à avoir ça.
Mais toi, t'aimes ça, les affaires chauffantes, là. T'as chiolé aussi sur le volant chauffant l'autre jour.
Mais moi, je pense à mon gars, tu sais. Je pense à mon gars qui veut avoir les fesses aussi en arrière. T'sais.
Moi, je pense plus à mon gars. Moi, il y a 20 ans qu'il se débrouille.
moi, il est plus jeune, mon petit prout. Fait que c'est à peu près ça. Je sais que j'avais une troisième chose, mais elle me revient pas présentement. Là. Mais pour le reste, là, ça pourrait clairement être mon prochain véhicule. Personnellement, l'autonomie, c'est vraiment sur la coche, comme on peut dire, là. C'est sur le nez. Je faisais des déplacements, j'ai pris des photos de mes déplacements. Je mettais l'odomètre à zéro, puis après ça, je partais. Puis quand j'arrivais au bureau, je prenais une autre photo pour comparer le kilométrage que j'avais fait comparativement à ce qu'il me donnait au départ. Puis tu veux, un matin, là, je suis parti avec 265 km d'autonomie estimée. Oui. Moi, je fais 55 km, exactement 55 km à tous les jours. Je suis arrivé au bureau avec mon 55 km, il me restait 216. Donc, 265 à 216, si j'enlève 55 km, on voit-tu que c'est pas mal juste sa coche, là?
Ah non, ils sont vraiment, vraiment précis. Hein. C'est, moi, ça m'est parti.
Puis là, on parle d'un mix de circulation, puis de rouler. Puis quand je roulais, là, je le traitais pas comme un véhicule électrique. Je vous jure, moi, avec ma Leaf, là, si vous croisez une Leaf argent sur sa 40 le matin qui roule 99 km/h, c'est moi. Parce que je pars de chez nous, elle me dit 141 km, puis quand j'ai fait un petit bout à 20, là, je suis rendu qu'il m'en reste à peu près 112. Tellement que ouais. C'est du devinomètre. Là. C'est comme, je te donne cette autonomie-là présentement, là, mais pense que tu vas peut-être en avoir 50% de ça avant d'arriver. Puis c'est pas à cause de la température, c'est juste parce que tu commences à rouler. Puis parce que la température, elle la connaît avant que tu partes. Mais Hyundai, ouais, avec leurs estimations, sont sur la coche. Le véhicule est hyper confortable. Je pense qu'il est mieux insonorisé que la version à essence parce que j'ai rien à dire côté bruit extérieur. C'est un peu le reproche que j'avais avec la version à essence, c'est que c'est un peu bruyant. T'entendais un peu trop le moteur puis les bruits de roulement. On dirait que la version électrique a probablement été un petit peu mieux sonorisée parce que c'est beaucoup moindre. Il y a des modes de conduite. Normalement, vous allez probablement conduire ça en mode éco pour sauver le plus d'énergie possible. Vous mettez ça en mode sport, il y a question à avoir du plaisir. Ouais. C'est un véhicule qui est très nerveux, qui est très agréable à conduire. C'est un véhicule qui est beau aussi. Il est mignon là. Puis ça fait vraiment le travail. On perd pas d'espace à cause des batteries. C'est sous le plancher, donc il n'y a pas de perte d'espace entre la version essence et la version électrique.
Alors moi j'ai adoré ce véhicule là. J'ai beaucoup aimé ce véhicule là. Ouais. Définitivement.
Ça aurait la capacité d'être mon prochain véhicule parce que ça rentre dans mes besoins. J'ai pas besoin de plus. Bon, on parle de 415 km d'autonomie. Là. Avec les températures, j'avais un peu plus froid. Le maximum que j'ai vu personnellement, je pense que c'est 345 ou 380. Là. Mais, ouais, mais tu sais, si ça vous donne 380, ben attendez-vous à ce que vous allez avoir 380. Et non pas 250 tout d'un coup. Là.
Moi, j'ai eu 303 maximum quand je l'ai essayé. Là.
C'est ça. Moi, je pense que c'est le maximum que j'ai eu, j'ai pris une photo, je pense que c'est 345 le plus haut que j'ai vu. Quand je l'ai eu complètement chargé, là. Ben, tu sais, vous pouvez faire de la recharge rapide. Il y a le port de recharge rapide qui est un port, c'est pas le port CHAdeMO, là, c'est l'autre standard, là. SAE Combo qu'on appelle. Ouais. Fait que je l'ai essayé, je suis allé charger une borne rapide parce que la journée que j'ai eu l'auto, il restait 57 km d'autonomie dedans, puis ça m'en prend 55 pour revenir au bureau. Fait que normalement, je vais au bureau, je la branche sur le 110 pour le restant de ma journée, puis j'en ai assez pour m'en revenir. Et comble du malheur, cette journée-là, on a manqué d'électricité comme une demi-heure après que je suis arrivé avec l'auto, puis le courant revenait pas avant 6 heures. Fait que tout le monde a couru jusqu'à la maison pour aller finir de travailler à la maison pour pouvoir prendre les appels qui rentrent. Puis il a fallu que j'arrête à une borne du circuit électrique à Vaudreuil pour recharger la voiture. Mais j'ai chargé, je pense que c'est 18 minutes, puis je m'étais ramassé avec presque 100 km d'autonomie. Là. J'ai pas chargé super longtemps, puis j'en ai eu en masse pour m'en retourner chez nous. Là. T'sais, j'ai branché l'auto, je suis allé au IGA faire un petit peu d'épicerie, je suis revenu, puis j'ai débranché, puis je suis reparti. Puis ça m'a donné assez d'électricité juste pour me rendre. Fait que tu sais, il y a toujours moyen de moyenner quand même. Là.
Ah oui, mais c'est sûr.
C'est un véhicule que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Personnellement, par exemple, si j'avais un véhicule comme ça à m'acheter, j'irais avec la version Preferred. Je pense pas que la version Ultimate vaut le 6 000 $ de plus. À moins que vous soyez un maniaque de chaîne audio, là. Ou que vous aimez vraiment, vraiment beaucoup les Ford Adèle, ou vous voulez absolument un toit ouvrant parce que c'est rare, c'est une voiture électrique, ou des sièges en Suède, ça fait votre affaire. Ben, c'est un siège avant ventilé avec surface en cuir, excusez. Je pense que c'est pas du Suède, c'est du cuir. Je pense pas que ça vaut nécessairement la peine. Moi, je sauverai un peu d'argent parce que vous changerez pas l'autonomie, là. Même s'il est supposé plus tard avoir une version avec une plus petite batterie, moi, j'irai avec la version qui est 45 599 de base. À voir s'il va être disponible pour le rabais du gouvernement fédéral parce que c'est 45 000 $ max, là. Fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des jeux.
On verra, là. Attends.
Des jeux de chiffres.
Je suis pas décidé encore.
Non, c'est ça. C'est des rumeurs, là, mais on verra. On verra ce que ça donnera. Mais
Bon, mon cher, je pense que là, ça va être temps que l'on mette fin à notre petite émission de la journée, mon ami.
Exact, c'est là que je m'en allais.
Donc, Max, ouais, les gens parti avec enthousiasme. Fait que pour me rejoindre, de la même façon, c'est encore page Facebook, Marc Bouchard, Marc Souligné Bouchard sur Twitter, Bouchard Souligné Marc sur Instagram, et bien sûr, notre adresse courriel commune, info@saroulradio.com.
C'est bon, moi sur Twitter, c'est Scalazormo, Facebook, Luc Desormo, sur Instagram, Desormo Luc. Vous pouvez trouver l'émission sur Facebook et sur Twitter aussi à Ça Roule Radio. Vous pouvez nous télécharger directement du site saroulradio.com. Vous pouvez nous écouter à partir de iTunes, Google Play, Spotify et sur deux radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Puis c'est pas mal ça. Donc Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission cette semaine. Je sais que tu as un rendez-vous bientôt, donc il faut terminer. Merci aux auditeurs d'avoir écouté encore une fois cette émission. Puis on se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bye tout le monde.
Bye bye, bonne semaine.